Bonjour à tous. Cap sur la Martinique à plus de 50 nœuds, 92 km/h en pointe pour les plus rapides. Le départ de la Transat Jacques Vabre dans quelques minutes à 13h27. Nous serons tout près de la ligne de départ dans un instant. Jérémy Bayou, le skipper du monocoque Charal, invité de ce journal. Troisième dose de vaccin, passe sanitaire, cinquième vague, le Covid revient au centre de nos vies. Emmanuel Macron doit prendre la parole mardi soir. Les médecins généralistes attendent un coup d'accélérateur à la vaccination de rappel. À l'étranger, en Irak, le Premier ministre échappe à une tentative d'assassinat au drone. Au Nicaragua, élections présidentielles sans surprise. Daniel Ortega devrait enchaîner un quatrième mandat. Et puis, cette information NASA que nous relaie Sophie Becherel, notre spécialiste science à la rédaction. Retour sur Terre retardé de 24 heures pour Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers en raison de vents violents sur la zone d'amérissage au large de la Floride. L'astronaute doit quitter la station spatiale internationale demain à 20h. La météo, un dimanche d'automne, averse, orage et vent. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Cap sur le grand large pour un grand jour pour les marins avec le départ dans quelques minutes donc maintenant de la Transat Jacques Vabre, 15e édition, départ du Havre, direction la Martinique et Fort-de-France. 79 bateaux pour cette transatlantique qui se dispute en double avec deux skippers, quatre catégories entre monocoque, multicoque et maxi-multicoque. En direct et en mer à bord du bateau Radio France, on retrouve notre envoyé spécial Jérôme Val. Bonjour Jérôme.
Bonjour Frédéric.
Et on est maintenant, Jérôme, à moins de 25 minutes du départ.
Exactement, on est nous au cœur de cette zone de départ, au milieu des 79 concurrents. Mais quelle carte postale, elle est magnifique dans cette mer aux couleurs vert-gris avec l'écume blanche, le ciel qui est parsemé de nuages gris, noirs et quelques rayons de soleil. Et derrière nous, les falaises autour du Havre. Mais ça brasse Frédéric, on est vraiment secoué dans tous les sens comme dans une machine à laver, là dans un tambour de machine à laver. La mer avec des creux de 2 mètres qui nous propulse à droite et à gauche, de devant, derrière. Il faut s'accrocher et on n'est pas toujours très au sec. Et vous imaginez qu'à bord des bateaux concurrents, c'est exactement la même chose. Il faut patienter encore avant de lâcher les chevaux. Vous l'avez dit, ça sera à 13h. Ouh là là, ça secoue. À 13h27, pour très précisément ce départ, pour enfin lâcher les 79 concurrents direction le soleil et la Martinique.
Alors tenez-vous bien, Jérôme, à ce que vous pouvez. Ces énormes, un mot sur ces énormes trimarans, une véritable attraction de puissance, de technologie et de vitesse.
Oui, les ultimes, alors ils ne sont que 5 ultimes dans cette catégorie, mais c'est la crème de la crème, j'allais dire, le concentré, vous l'avez dit, de technologie. Et il nous tarde justement de les voir s'envoler au moment du départ. Ce sont des conditions parfaites pour eux. Ils arriveront malgré leur poids, malgré leur dimension, 32 mètres de long, 23 de large, avec des mâts qui dépassent les 30 mètres, un immeuble de 10 étages. Eh bien, ils arriveront à s'envoler au-dessus de l'eau, le long des côtes normandes, et ça sera forcément un spectacle magnifique qu'on va tenter de suivre. Ils vont aller très très vite et je peux vous assurer Frédéric que même avec un bateau à moteur on n'arrivera pas à les suivre.
Jérôme Val, merci au milieu du vague et à bord du bateau Radio France. Merci à vous. Invité de ce journal, Jérémy Bayou, le skipper avec Christopher Pratt du monocoque Charal. Bonjour Jérémy Bayou.
Bonjour.
C'est votre 6e participation à cette Transat. On est à quelques minutes du départ. Quelle est votre sensation? J'imagine heureux mais sans doute tendu.
Ouais, exactement. C'est un mélange de sentiments. Heureux de retrouver la mer. Ça faisait longtemps depuis le Vendée Globe cet hiver. Tendu parce qu'on sait que les conditions vont pas être faciles avec une stratégie qui est pas du tout claire à l'heure actuelle. Et puis aussi toujours l'émotion de partir, de quitter ceux qu'on aime, ceux qui nous ont aidés à préparer Charal. Donc voilà. Mais quand on sera en mer, on sera uniquement concentré sur la marche du bateau.
Vous parliez d'une émotion particulière vis-à-vis de la famille, mais il y a aussi du public, ce qui n'était pas le cas l'an dernier pour le Vendée Globe. Ça doit être réconfortant de voir du monde.
Ouais, absolument. Comme pour tous les sports, les retrouvailles avec le public sont pleines d'émotions et puis on voit encore plus que dans les autres sports parce que le public est juste là uniquement au départ et à l'arrivée et pendant les courses, ils ne sont pas autour de nous à pouvoir nous supporter. Donc les avoir au départ, c'est une réelle force, un réel plus. Donc on a essayé d'en profiter cette fois-ci, contrairement au Vendée Globe où malheureusement le départ est à huis clos.
Alors Jérémy Bayou, c'est votre 6e participation à la Transat Jacques Vabre. Vous avez gagné gagné l'édition 2011. Le départ, c'est vraiment dans quelques minutes. C'est toujours un moment très stressant, j'imagine. 79 bateaux qui veulent couper la ligne de départ en même temps.
Ouais, exactement. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a 5 heures de pénalité si on vole le départ, si on est trop tôt sur la ligne de départ. En même temps, il faut prendre un bon départ pour bien se positionner pour la suite. Il va y avoir des conditions de vent un peu musclées et de la mer assez hachée. Donc il y a plein de bêtises à faire et il faut vraiment les éviter pour pas se mettre hors jeu dès le début de course.
Comment on se prépare à cette course? Il y a un préparateur, une préparatrice. Comment vous faites?
Alors, il y a toute une équipe technique autour de Charal pour préparer le bateau. Ce sont des bateaux ultra complexes, donc toute l'année on a quasiment une quinzaine de personnes qui s'occupent de faire fonctionner le bateau et l'optimiser. Et puis de notre côté, avec Christopher Pratt, mon coéquipier, on optimise la préparation physique tout au long de l'année. C'est devenu quelque chose de classique. On le fait pas spécifiquement pour la Jacques Vabre, c'est des préparations hebdomadaires. Et on arrive là au départ de la Jacques Vabre tous les deux en pleine forme et on espère que ça nous aidera pour ces 15 jours de course.
Préparation physique et mentale également?
Ouais, absolument. On travaille avec une psychologue du sport, Myriam Salmi, qui a l'habitude de plein d'autres sports et qui optimise notre relation à tous les deux à bord. On est un vieux couple avec Christopher. On n'a pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre. Mais là, on avait besoin justement de se recentrer un petit peu sur nous-mêmes et d'arriver à bien communiquer entre nous. Et Myriam nous a énormément aidé là-dessus.
Est-ce qu'il y a une revanche à prendre, Jérémy Bayou, par rapport au Vendée Globe, où vous avez vraiment joué de malchance?
Je dirais pas une revanche. En tout cas, il y a le goût de retourner en mer. Le plaisir d'y retourner à deux après 3 mois de solitude sur le Vendée Globe et le plaisir avec Christopher, j'espère, de réussir à tirer à 100% sur la machine. C'est vrai que sur le Vendée Globe, on est beaucoup dans la gestion et on peut rarement être à 100%, ou en tout cas pas pendant toute la durée de la course. Malheureusement pour moi, en plus, j'étais pas aux avant-postes dû à une avarie dès le départ. Cette fois-ci, on a envie de batailler aux avant-postes, de tirer à 100% sur le bateau et d'arriver le plus vite possible, ou en tout cas le mieux classé possible en Martinique.
Cette année, Charal avec Bayou et Pratt, vous êtes favori.
C'est bien, mais ça sert pas à grand chose. Donc ça va se passer sur l'eau, les statuts de favori, une fois que la ligne de départ est franchie, elle sert pas à grand chose. Et on sait qu'il y a une énorme concurrence en face de nous et qu'il va falloir faire 0 faute pour arriver devant.
Jérémy Bayou, quelle est la plus grosse appréhension que vous ayez? C'est heurter un objet flottant, c'est le poteau noir, c'est qu'il devait jouer un mauvais tour dans l'une édition précédente?
Il y a plein de choses qui sont pas maîtrisables, donc ça sert à rien de se focaliser là-dessus. Après, la peur, c'est plus la peur de mal faire, de pas tirer les bons bords, de pas bien exploiter le potentiel de son bateau. Ça, on peut le maîtriser, et donc ça ne repose que sur nous, que sur Christopher et moi. Et voilà, on espère qu'on va rendre une copie la plus propre possible. C'est ça le stress, c'est le stress de la compétition.
Eh ben, Jérémy Bayou, bonne traversée avec Christopher Pratt, bonne chance, et on se retrouve à Fort-de-France alors.
Avec plaisir, avec un petit punch à l'arrivée ou un café.
Merci à vous et prenez un bon départ. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Interview de Jérémy Bayou réalisée un peu avant ce journal. On en vient maintenant à d'autres préoccupations, loin du grand large et avec le virus qui revient au cœur de nos vies. Et cette question, comment remobiliser et reprendre le dessus sur le Covid au moment où l'Europe, selon l'OMS, est redevenue l'épicentre de l'épidémie et alors que le virus regagne du terrain en France. Emmanuel Macron doit s'exprimer après demain soir mardi et face à la reprise de l'épidémie. Le chef de l'État va devoir trouver la bonne façon d'accélérer la vaccination, contraindre ou convaincre les Français de la nécessité d'une troisième dose de vaccin. En attendant, certains Français anticipent. 65 000 rendez-vous ont déjà été pris en quelques heures sur le site de Doctolib. Le rappel vaccinal irait donc dans le bon sens, selon Jacques Battistoni, président du syndicat des médecins généralistes MG France.
J'attends certainement le rappel que on est peut-être dans le début d'une nouvelle vague, pas très intense, pas très forte, mais on voit quand même que depuis plusieurs semaines, les chiffres montent, on voit que les pays étrangers autour de nous sont aussi atteints, et je crois qu'il faut sans doute donner un petit coup d'accélérateur à la vaccination de rappel, qui est une troisième dose pour certains, pas toujours, hein, ça peut être une deuxième dose quand on a eu le Covid, et donc on attend ça du président de la République. Il y a deux cibles aujourd'hui, les personnes âgées et puis les personnes présentant des facteurs de risque de forme grave. Ce sont surtout les personnes âgées qui sont mieux vaccinées. Aujourd'hui, on arrive à 30% de ces personnes-là qui ont fait leur dose de rappel et c'est plutôt satisfaisant, alors que les autres personnes, c'est un peu moins. On a pris un peu nos distances vis-à-vis de l'épidémie, on se dit que finalement ça va pas mal, on y pense moins, et donc c'est sans doute pour cela que le message du président de la République peut être utile.
Jacques Battistoni avec Ersine Lebovitch. Ailleurs en Europe, mais aussi et surtout en Russie, l'épidémie flambe. Et après des mois d'hésitation, Moscou avait pris une mesure censée être radicale pour stopper l'épidémie avec la mise en place d'une semaine chômée contre le virus. La mesure prend fin aujourd'hui et ça n'a pas fonctionné. Sur place à Moscou, Pierre Cassé.
C'était la dernière tentative en date du gouvernement russe pour enrayer l'épidémie. Après des mois passés à laisser le virus circuler librement, les autorités avaient fini par réagir à la mi-octobre, lorsque le nombre de décès quotidiens avait dépassé le millier. Le dispositif était principalement basé sur une semaine non travaillée, du 1er au 7 novembre. Les entreprises russes y étaient tenues de donner congé à leurs employés, tout en continuant de payer leurs salaires. Mais rien en réalité n'obligeait ces derniers à rester chez eux, et pratiquement aucune compensation n'est accordée aux entreprises concernées. Résultat, cette semaine, la plupart des entreprises ont continué de travailler, les Russes ne se sont pas confinés, la vie dans les grandes villes a suivi son cours habituel. Et le bilan est à l'avenant de ces demi-mesures, la progression du virus n'a pas ralenti, on comptait 41 000 nouveaux cas et près de 1 200 morts ce samedi. C'est un nouveau record, pourtant les jours non travaillés ne seront pas prolongés. Malgré 245 000 morts selon les statistiques officielles, sans doute plus de 600 000 en réalité, la Russie ne semble toujours pas prendre la mesure de la pandémie. Moscou, Jean Cassé, France Inter.
Et aux États-Unis, une bougie sur un gâteau un peu amer pour Joe Biden à l'occasion du premier anniversaire de son élection à la Maison-Blanche. Une cour d'appel fédérale américaine a suspendu hier l'obligation vaccinale pour les employés des entreprises de plus de 100 salariés voulues par le président américain. La Maison-Blanche avait prévenu que cette règle s'imposerait à tous les États, mais au pays des libertés individuelles. Cette version américaine du pass sanitaire a provoqué un tollé dans l'opposition chez les républicains. En France, on l'a entendu, l'épidémie continue de progresser. 9605 nouveaux cas hier, 6667 personnes malades du coronavirus hospitalisées, dont 1099 patients en réanimation. Et dans ce contexte, avec la crainte d'une cinquième vague, le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, interrogé par le journal du dimanche, indique que 6% des lits d'hôpitaux sont fermés. C'est un chiffre en baisse par rapport à l'estimation de 20% donnée par le Conseil scientifique. Les précisions d'Alice Cachaner.
Difficile de s'y retrouver dans cette avalanche de chiffres autour des fermetures de lits à l'hôpital. Celui avancé par la FHF, la Fédération hospitalière de France, est 4 fois moins alarmiste que celui du Conseil scientifique et se rapprocherait ainsi de l'estimation du ministère de la Santé qui table plutôt sur 5% de lits en moins. Les autorités travaillent activement sur cette question hautement politique. Pour l'instant, Olivier Véran se base sur les données approximatives de 16 centres hospitaliers, l'étude de la FHF sur 330 établissements. Ce qui est certain, c'est que l'hôpital traverse une zone de turbulence, démissions, difficultés de recrutement et puis des équipes de soignants extrêmement éprouvées par plus d'un an et demi de crise Covid et des arrêts maladie qui tombent en cascade. À quelques mois de l'élection présidentielle, la question des chiffres est donc prise très au sérieux. Combien de lits ont été ouverts, fermés? Combien d'infirmiers et médecins ont été formés durant le quinquennat? Une étude globale du ministère de la Santé doit répondre à ces questions. Elle est attendue dans les semaines à venir.
À l'étranger, en Irak, l'attaque à Bagdad et la tentative d'assassinat du Premier ministre Mustafa al-Kazimi a été menée avec 3 drones. Les attaques aux drones piégés se sont multipliées ces derniers mois en Irak. Le Premier ministre al-Kazimi est sain et sauf. Washington condamne un acte apparent de terrorisme. Condamnation également en Irak, où cette attaque ravive les craintes d'un coup d'État. Sur place à Bagdad, Lucille Wasserman.
Les moments d'unité politique en Irak sont rares, très rares. Et pourtant, après cette tentative d'assassinat contre le Premier ministre, tous les partis politiques ont condamné aujourd'hui cette attaque. Y compris les groupes armés proches de l'Iran, qui sont aujourd'hui pointés du doigt à cause de leurs relations très conflictuelles avec le chef du gouvernement. Dans un communiqué, l'un de ses dirigeants a fait savoir que l'attaque était inacceptable et qu'elle avait certainement été conduite pour qu'il soit accusé. Une théorie du complot qui ne convainc pas vraiment les Irakiens. Quant au semblant de front uni, il ne semble pas non plus rassurer les hommes politiques du pays. Le président de la République, Barham Saleh, a ainsi affirmé qu'il fallait à tout prix éviter que l'Irak ne tombe dans le chaos et qu'un coup d'État ne s'y produise. Des mots forts et alarmants, utilisés également par une grande partie de la population aujourd'hui, qui craint de voir le pays, plus que jamais, basculer dans une énième confrontation armée. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
Élection présidentielle au Nicaragua où Daniel Ortega devrait enchaîner un quatrième mandat. Ortega vainqueur avant même le vote. L'ancien sandiniste, accusé d'être devenu dictateur, a fait emprisonner la plupart des candidats d'opposition. Au Nicaragua, beaucoup d'opposants se sont exilés au Costa Rica voisin après la répression des manifestations étudiantes en 2018. Répression qui a fait plus de 300 morts. Certains dissidents sont malgré tout restés au Nicaragua. Témoignage recueilli par notre correspondante à Mexico, Emmanuel Stills.
La répression continue.
Vilma Núñez est une avocate nicaraguayenne qui avait lutté contre la dictature de Somoza et qui dénonce aujourd'hui une autre dictature, celle de Daniel Ortega. Núñez décrit la criminalisation de toute forme d'opposition.
En ce moment, le plus fort de la répression ne s'exerce plus dans les rues. La police ne tue plus des manifestants. Maintenant, c'est le pouvoir judiciaire qui emprisonne et qui torture toutes les personnes critiques qui sont arrêtées arbitrairement.
L'Organisation de défense des droits humains, dirigée par Núñez, a été chassée de ses bureaux, réquisitionnée par le gouvernement. Des lois taillées sur mesure ont permis à Ortega de fermer des médias et d'écarter tous ses adversaires de la course électorale. Les médecins qui ont soigné des manifestants blessés en 2018 ont aussi rejoint la résistance au régime. Arrêtés à plusieurs reprises, l'un d'entre eux témoigne sous couvert d'anonymat.
Il y a un silence qui est tombé sur le Nicaragua. Nous ne nous exprimons plus par précaution pour ne pas être arrêtés. La police, les organes de sécurité nous surveillent, ils nous connaissent et à n'importe quel moment, ils peuvent nous jeter en prison.
Ne pas aller voter dimanche, c'est l'appel lancé par les opposants, même s'ils savent que Daniel Ortega s'est déjà proclamé vainqueur. Mexico, Emmanuel Stills, France Inter.
C'est demain lundi que la conférence des évêques de France doit annoncer des décisions prises pour lutter contre les abus sexuels dans l'Église et le processus de réparation pour les victimes. Des annonces à l'issue d'une semaine en assemblée plénière à Lourdes. Les évêques ont déjà reconnu la responsabilité institutionnelle de l'Église et le caractère systémique des violences sexuelles. La pression sur l'Église est très forte depuis la remise du rapport Sauvé le 5 octobre dernier. À Lourdes, les précisions Delphine Evenou.
La pression vient déjà des victimes. Une partie s'est regroupée dans le collectif des paroles aux actes. Le père Jean-Luc Souffeton en fait partie. Il est présent à Lourdes et a délivré un message aux évêques.
On en parle depuis des années et des années. Il y a un rapport qui a été fait. Voilà, on passe à la mise en œuvre de ce qui est recommandé. Ça suffit, maintenant passons aux actes.
En fin de semaine, l'épiscopat a aussi invité 130 personnes pour nourrir sa réflexion. Là aussi, des messages ont été passés. Alix, 29 ans.
Pour moi, le cœur de tout ça, c'est vraiment le fait d'inclure les laïcs et d'inclure les femmes pour que ce soit plus représentatif, qu'il n'y ait pas des réflexes de protection entre hommes. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important.
Et puis, il y a ceux qui se sont invités à Lourdes hier en soutien aux victimes, comme Joël, très pratiquante.
Moi, ce qui me révolte, c'est la réparation. C'est-à-dire, l'Église a beaucoup d'œuvres d'art. Il y a des tableaux de Delacroix, il y a des tableaux. Donc la réparation, dire qu'il n'y a rien dans les caves du Vatican ou de l'Église de France, c'est un pur mensonge. C'est l'hypocrisie qui a été dénoncée par Jésus.
Des ecclésiastiques scrutés, bousculés parfois. Luc Crépy, évêque de Versailles, est chargé de la lutte contre la pédophilie dans l'Église.
Déjà dans mon diocèse, j'ai pas mal de catholiques qui m'ont secoué et qui m'ont dit « on compte sur vous, on espère que vous serez à la hauteur à Lourdes ». On a déjà fait un premier pas pour montrer qu'on avait vraiment bien entendu les choses. Maintenant, il faut être à la hauteur dans un deuxième pas.
Le discours de clôture de l'Assemblée plénière est prévu demain à 10h30.
Delphine Evenou, à Lourdes. L'autre temps fort en sport aujourd'hui, après la Transat Jacques Vabre, c'est le tennis avec la finale cet après-midi du Masters 1000 de Paris-Bercy entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. La 7e finale à Bercy pour Djokovic. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour.
En direct de la Core Arena à Paris-Bercy. Et en ce moment, on l'entend, il y a la finale du double messieurs avec les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.
52 minutes de jeu, mais pas d'état de grâce pour les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut qui ont très vite et même tout de suite sur leur premier jeu de service été breakés par leurs adversaires. Cette paire germano-néo-zélandaise, Tim Poets et Michael Venus, ils ont perdu cette première manche 6 jeux à 3. Ils sont devant au point, à la lutte, à chaque service, 3 jeux à 2 avec le service à l'instant de Pierre-Hugues Herbert remporté sur un jeu blanc et voilà, c'est un peu compliqué pour les Français, mais ils nous ont habitués, notamment au tour précédent, en demi-finale hier soir, dans une formidable ambiance ici dans l'arène de Bercy, à remonter une situation mal engagée. Ils avaient perdu face à John Pierce l'Australien et Philippe Polasek le Slovaque la première manche 6-2 pour s'imposer 6-3 dans le deuxième set et 11-9 là aussi à l'arraché dans le super tie-break. Donc tout est encore possible pour les Français qui sont menés 1-7-0, tout ça dans une ambiance où évidemment on attend avec impatience à 15h la revanche de la finale de l'US Open du 12 septembre dernier, perdue par Djokovic face à Medvedev, entre les deux meilleurs joueurs du monde, le numéro 1 Djokovic et le numéro 2 Medvedev.
Guillaume Batin, en direct des Masters 1000 à Paris-Bercy. Merci. Et puis, je vous redonne l'information que je vous donnais en début de journal. Le retour sur Terre de Thomas Pesquet et de ses trois autres astronautes, ses coéquipiers de la Station Spatiale Internationale est retardé. Il devait être déclenché cet après-midi à 19h. Il est reporté à la nuit de lundi à mardi. Et cela en raison de vents violents dans la zone d'amérissage au large de la Floride. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Le temps maussade qui ce matin a traversé la moitié nord du pays va progressivement gagner d'ici la soirée les Pyrénées, le Massif central et la haute vallée du Rhône. Dans un même temps, le ciel va s'éclaircir de la Belgique au nord de la Loire. Autour de la Méditerranée, le vent très turbulent va marquer la journée. Le Mistral et la Tramontane ainsi que les rafales de nord-est entre la Corse et le continent seront proches de 90 km à l'heure, avec des pointes prévues à 110 sur le Roussillon. Le soleil va s'imposer sur les Alpes et des terres provençales au golfe du Lion, mais des averses, parfois mêlées d'orages, sont prévues sur la Corse, ainsi que du littoral varois à la côte d'Azur. Les températures au meilleur de l'après-midi vont évoluer entre 16 et 20 degrés dans la zone Perpignan-Nice-Ajaccio, et généralement entre 10 et 15 degrés comme hier sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski de Météo France.